Allez, attention.
Bonjour, vous écoutez l'antenne du social sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur Internet partout, sur toute la planète.
L'antenne du social, c'est 2 heures d'antenne, le troisième vendredi de chaque mois, entre 19h et 21h. 2 heures dédiées au travail social et à ses acteurs.
La série Zoom de l'antenne du social, proposée par Isabelle, Joran et Christophe, c'est un format d'émission enregistré sur le terrain, hors studio, mais qui garde sa marque de fabrique. Envie de comprendre ? Liberté de ton.
Vu de loin, le travail social, ça paraît vraiment la galère. Les problèmes, les paplards, les gens qui comprennent rien, et les employeurs, toujours plus avides de contrôle des exploitations. Au point de se demander pourquoi s'engager dans cette galère. Mais vu de près, les choses semblent un peu différentes. Écoutons Anthony nous raconter comment il en est arrivé là.
Je trouve difficile de trouver un moment précis satisfaisant au sein du travail social. Personnellement, j'ai réalisé une transition professionnelle afin de devenir assistant de service social. Ça reste récent, mais je pratique ce métier depuis 2020, après avoir travaillé pendant 5 ans en tant que développeur informatique. Le changement est drastique. Les conditions de travail sont bien différentes, vraiment plus difficiles dans le travail social. Le salaire est bien réduit, et l'impuissance qu'on peut ressentir est quand même assez importante. Mais pour moi, ces points restent inférieurs face à ce que j'éprouve d'avoir mis au centre de mon travail la personne, les familles ou les enfants. Quand on est en difficulté, pour moi, et qu'on cherche de l'aide, il n'y a rien de pire que de se sentir seul ou isolé. Ma conviction a été donc, avec la transition, de me dire « ne laisse personne au bord de la route ». C'est complètement utopique, hein, mais je me dis que mon travail permet à ma hauteur d'aider et d'accompagner les personnes qui estiment en avoir besoin. C'est ça pour moi qui me donne envie de continuer malgré la galère que les gens rencontrent, malgré la galère du métier, malgré la galère des démarches à réaliser. Chaque instant d'accompagnement me rappelle pourquoi j'ai fait cette transition. Et aujourd'hui, je dirais que c'est ça qui me permet d'éprouver une forme de satisfaction.
Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis assistante de service social dans un accueil de jour ouvert de manière inconditionnelle. C'est un lieu où chacun peut trouver un peu de répit et des services élémentaires. Et pour certains, c'est un espace rassurant, un espace de lien ou pour rencontrer aussi des travailleurs sociaux. En effet, on a 2 assistantes de service social et 1 éducatrice spécialisée. Ma mission est d'accompagner des personnes sans domicile, bénéficiaires ou demandeurs du RSA et sans enfants à charge. Mais au sein de l'accueil de jour, je croise au quotidien des personnes fréquentant l'accueil avec ou sans le RSA. Parmi toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai eu une situation qui m'a marquée. En fait, il y avait un homme qui fréquentait régulièrement l'accueil de jour. Il utilisait quelques services, mais restait silencieux. En fait, il avait même une posture qui était fermée, il était très en retrait. On percevait qu'il y avait une fragilité, mais sans savoir ce qu'il traversait. Ma collègue du premier accueil n'avait pas recueilli de demande de sa part, elle n'avait pas réussi à faire un lien, la rencontre s'était pas faite. De mon côté, de façon constante, je suis allée dire bonjour comme à mon habitude pour toutes les personnes qui fréquentent l'accueil, puis à chaque fois, je réessaye avec de créer le lien, de rajouter quelques mots de plus, etc., etc. Grâce à ces petits gestes répétés, un lien simple a commencé à se créer. Enfin, c'est ce que je pense. Puis j'ai remarqué qu'il s'asseyait souvent devant la fenêtre de mon bureau. Il aurait pu aller ailleurs, mais il revenait toujours à cet endroit précis. J'y ai vu une forme de communication non verbale, une manière silencieuse de dire qu'il se sentait un peu en sécurité à cet endroit-là. Pour moi, c'était déjà une petite victoire, une manière de lui de s'ouvrir un peu sur notre accueil de jour. Normalement, je n'étais pas censée l'accompagner puisqu'il n'était pas bénéficiaire du RSA. Mais il n'allait vers aucun dispositif et je voyais là un risque d'un renoncement à ses propres droits. J'ai alors fait un petit pas de côté, puis je lui ai proposé un entretien formel dans mon bureau, et puis, il a accepté. À partir de là, un accompagnement a pu commencer, et il a été en mesure d'exprimer le besoin de retrouver un logement. Durant cet accompagnement, il y a eu un moment qui a été pour moi rigolo. Un matin, je l'ai aperçu depuis mon bureau, et je pense qu'il ne pensait pas être vu, en train de jouer de l'air guitare. Lui qui était si fermé, il lâchait prise par un instant de joie. Comme pour un jeu d'enfant, il s'amusait à jouer de la guitare et c'était la première fois que je le voyais aussi ouvert et peut-être même aussi heureux. Pour moi, ce geste était le signe d'un mieux-être, d'un relâchement positif et peut-être bien d'un retour d'espoir. Ça m'a procuré beaucoup de joie et même de la motivation. Pourtant, l'accompagnement, lui, il a été marqué par des étapes qui étaient difficiles. Bien sûr, le manque de place en hébergement ou en logement, les critères d'admission en logement qui peuvent être complexes, et même des représentations sur les personnes à la rue qui peuvent des fois les limiter pour entrer en logement. Mais nous avons avancé ensemble, petit à petit, et peut-être par une confiance mutuelle. Il a par la suite obtenu un premier rendez-vous en pension de famille. L'entretien commençait très bien, puis il y a eu un moment de décalage dans son discours qui a fait douter les professionnels et l'admission a été refusée. C'était difficile pour lui, d'abord, mais personnellement, j'ai ressenti aussi de la frustration. Et je revoyais là les paradoxes que l'on peut trouver dans l'application des politiques du logement d'abord. Mais bon, le temps passant, il a finalement obtenu un rendez-vous sur une autre structure et cette fois, il a été admis. Quelques jours après son arrivée, la structure m'a dit que l'intégration se passait très très bien, qu'il créait du lien très vite et correspondait pleinement au dispositif. Cette réussite a été pour moi du coup une grande source de motivation et de satisfaction. Ça m'a confortée aussi dans la relation de construire ce tendre de relation d'aide, de rencontre dans le respect de l'autre et puis à son rythme. Et puis pour moi, je pense que c'est à ce moment-là que ça peut des fois transformer des trajectoires de vie.
Les professionnels du travail social se protègent du marasme ambiant grâce à l'intensité de leurs aspirations. L'appellation « travail social » associe deux déterminants un peu abrupts. Le premier de ces déterminants, c'est le mot « travail ». Il renvoie à l'univers de l'effort et de l'obligation contrainte, de l'exploitation oppressive et des duplicités managériales. Rien de glorieux et on en a tous un peu ras-le-bol. Le second déterminant, c'est le mot « social ». Il fait écho à un tissu de relations entremêlées et confuses, aux enjeux aussi diffus qu'incertains. Les règles de l'ordre social nous entraînent dans des trames d'interaction plus souvent subies que choisies. Bien souvent, la vie sociale nous assigne. Tant qu'on ne se pose pas trop de questions, on supporte à peu près. Quand on franchit le Rubicon séparant la simplicité du sens commun de la réalité éclairée par l'esprit critique, ça devient plus compliqué. Pas grand-chose d'excitant à l'horizon, donc, lorsque surgit le vocable « travail social ». D'ailleurs, sa presse spécialisée peine à susciter de l'intérêt par-delà ses cercles d'auteurs, ses centres de formation voient l'effectif des postulants diminuer d'année en année, les velléités conceptuelles qui s'efforcent de faire du travail social un champ de pratique et de pensée autonome se voient rattrapées par un ensemble de disciplines essoufflées, je pense à la science administrative, à la psychologie, à la pédagogie, pour n'en citer que quelques-unes, qui s'efforcent de l'accessoiriser. Bref, le travail social, a priori, c'est pas la joie. Mais, à bien tendre l'oreille, le travail social représente une sacrée source d'enthousiasme. Pas dans les paroles de ses managers, ses directeurs, ses organisateurs et tous ses autres prescripteurs qui s'inquiètent et se lamentent. Les discours de ses cohortes encravatées qui enchaînent les réunions de bilan et les CODIR, les COPIL et les PROJAV tranchent avec les satisfactions rencontrées par les acteurs de terrain.
Bonjour, je me présente Sandra. J'ai 61 ans, je suis assistante de service social depuis bientôt 14 ans. J'ai fait mes études à l'école de Montpellier. J'ai été en reconversion professionnelle à ce moment-là. Ça a été un choix de retourner à l'école à 45 ans pour embrasser la carrière d'assistante de service social. J'exerce depuis 14 ans en milieu hospitalier dans un service d'addictologie où on reçoit des patients en sevrage et en post-cure. Ce service, du coup, permet aux personnes qui sont dans la demande de soins de venir conforter un projet de sevrage à tout produit et de réfléchir et de se confronter à l'abstinence. Nous recevons tout type de personnes âgées à partir de 18 ans jusqu'à plus de 80 ans, ce qui nous est arrivé. Parler d'un moment de satisfaction qui me conforte dans le choix de ce métier, comme beaucoup de mes collègues, je pense qu'on en a souvent de ces moments de satisfaction. Et c'est ce qui me donne en particulier l'envie tous les matins de me lever et d'aller sur mon lieu de travail qui est à plus de 35 km. Et malgré toutes les contraintes hiérarchiques, administratives que nous connaissons tous. S'il me faudrait choisir une situation en particulier, ce serait le jour où j'ai reçu.
Tout fout le camp. Hola, si tout fout le camp, cher ami, le pays lui-même est en danger. C'est affreux, j'en frémis.
En danger, cher monsieur, est le devoir sacré de tout vrai citoyen, c'est...
Oui ?
De le sauver.
Pour sauver le pays, que faire, cher ami ? La tâche est titanesque et nous sommes petits.
Commençons, cher monsieur, avant toute autre chose, par soyez le pilier sur lequel il repose.
Cher ami, vos paroles sont d'une telle clarté. C'est un nectar. Oui.
Cher monsieur, encore un peu de caviar. Alors, quelques louches, mais si, allons. Un peu de champagne aussi. Et votre épouse aussi sur son yacht. Et ses opérations boursières.
On croyait pouvoir s'en tirer. On savait pas où on avait fourré les pieds. On nous fait croire que c'est de la terre que viendra notre misère. Tout près de ma tête, le ciel est devenu boueux. En l'éclair, les hélicoptères de Canjouère. On croyait pouvoir s'en tirer. On savait pas où on avait fourré les pieds. Les chenilles de mon tracteur, m'a dit le gendarme qui voulait me foutre un PV. Au traversé de la route à Canjouère, serait plus nuisible que celle des chars militaires. Ah, Canjouère, ah, Canjouère.
La saltimbanque a pris l'express à 9h30. A pris l'express de Paris-Nantes. Prends garde.
Je suis passée en voiture.
Garde pour saltimbanque.
Devant le pont Saint-Michel.
Allez, attention.
Laissez-moi dans ma saumure, Abstenez-vous, gens de Saumur, de monter dans cette voiture.
Au mois de juin, par la peur, tout le monde votait.
D'ailleurs, face à ce que j'éprouve, d'avoir mis au centre de mon travail la personne, les familles ou les enfants. Quand on est en difficulté, pour moi, et qu'on cherche de l'aide, il n'y a rien de pire que de se sentir seul ou isolé. Ma conviction a été donc, avec la transition, de me dire « ne laisse personne au bord de la route ». C'est complètement utopique, hein, mais je me dis que mon travail permet à ma hauteur d'aider et d'accompagner les personnes qui estiment en avoir besoin. C'est ça pour moi qui me donne envie de continuer malgré la galère que les gens rencontrent, malgré la galère du métier, malgré la galère des démarches à réaliser. Chaque instant d'accompagnement me rappelle pourquoi j'ai fait cette transition. Et aujourd'hui, je dirais que c'est ça qui me permet d'éprouver une forme de satisfaction.
Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis assistante de service social dans un accueil de jour ouvert de manière inconditionnelle. C'est un lieu où chacun peut trouver un peu de répit et des services élémentaires. Et pour certains, c'est un espace rassurant, un espace de lien ou pour rencontrer aussi des travailleurs sociaux. En effet, on a deux assistantes de service social et une éducatrice spécialisée. Ma mission est d'accompagner des personnes sans domicile, bénéficiaires ou demandeurs du RSA et sans enfant à charge. Mais au sein de l'accueil de jour, je croise au quotidien des personnes fréquentant l'accueil avec ou sans le RSA. Parmi toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai eu une situation qui m'a marquée. En fait, il y avait un homme qui fréquentait régulièrement l'accueil de jour. Il utilisait quelques services, mais restait silencieux. En fait, il avait même une posture qui était fermée, il était très en retrait. On percevait qu'il y avait une fragilité, mais sans savoir ce qu'il traversait. Ma collègue du premier accueil n'avait pas recueilli de demande de sa part, elle n'avait pas réussi à faire un lien, la rencontre s'était pas faite. De mon côté, de façon constante, je suis allée dire bonjour comme à mon habitude pour toutes les personnes qui fréquentent l'accueil. Puis à chaque fois, je réessaye avec de créer le lien, de rajouter quelques mots de plus, etc., etc. Grâce à ces petits gestes répétés, un lien simple a commencé à se créer. Enfin, c'est ce que je pense. Puis j'ai remarqué qu'il s'asseyait souvent devant la fenêtre de mon bureau. Il aurait pu aller ailleurs, mais il revenait toujours à cet endroit précis. J'y ai vu une forme de communication non verbale, une manière silencieuse de dire qu'il se sentait un peu en sécurité à cet endroit-là. Pour moi, c'était déjà une petite victoire, une manière de lui de s'ouvrir un peu sur notre accueil de jour. Normalement, je n'étais pas censée l'accompagner puisqu'il n'était pas bénéficiaire du RSA. Mais il n'allait vers aucun dispositif et je voyais là un risque d'un renoncement à ses propres droits. J'ai alors fait un petit pas de côté, puis je lui ai proposé un entretien formel dans mon bureau, et puis, ben, il a accepté. À partir de là, un accompagnement a pu commencer, et il a été en mesure d'exprimer le besoin de retrouver un logement. Durant cet accompagnement, il y a eu un moment qui a été pour moi rigolo. Un matin, je l'ai aperçu depuis mon bureau, je pense qu'il ne pensait pas être vu, en train de jouer de l'air guitare. Lui qui était si fermé, il lâchait prise par un instant de joie, comme pour un jeu d'enfant, il s'amusait à jouer de la guitare et c'était la première fois que je le voyais aussi ouvert et peut-être même aussi heureux. Pour moi, ce geste était le signe d'un mieux-être, d'un relâchement positif et peut-être bien d'un retour d'espoir. Ça m'a procuré beaucoup de joie et même de la motivation. Pourtant, l'accompagnement, lui, il a été marqué par des étapes qui étaient difficiles. Bien sûr, le manque de place en hébergement ou en logement, les critères d'admission en logement qui peuvent être complexes et même des représentations sur les personnes à la rue qui peuvent des fois les limiter pour entrer en logement. Mais nous avons avancé ensemble, petit à petit et peut-être par une confiance mutuelle. Il a par la suite obtenu un premier rendez-vous en pension de famille. L'entretien commençait très bien, puis il y a eu un moment de décalage dans son discours qui a fait douter les professionnels et l'admission a été refusée. C'était difficile pour lui, d'abord, mais personnellement, j'ai ressenti aussi de la frustration. Et je revoyais là les paradoxes que l'on peut trouver dans l'application des politiques du logement d'abord. Mais bon, le temps passant, il a finalement obtenu un rendez-vous sur une autre structure et cette fois, il a été admis. Quelques jours après son arrivée, la structure m'a dit que l'intégration se passait très très bien, qu'il créait du lien très vite et correspondait pleinement au dispositif. Cette réussite a été pour moi du coup une grande source de motivation et de satisfaction. Ça m'a confortée aussi dans la relation de construire ce tendre de relation d'aide, de rencontre dans le respect de l'autre et puis à son rythme. Et puis pour moi, je pense que c'est à ce moment-là que ça peut des fois transformer des trajectoires de vie.
Les professionnels du travail social se protègent du marasme ambiant grâce à l'intensité de leurs aspirations. L'appellation « travail social » associe deux déterminants un peu abrupts. Le premier de ces déterminants, c'est le mot « travail ». Il renvoie à l'univers de l'effort et de l'obligation contrainte, de l'exploitation oppressive et des duplicités managériales. Rien de glorieux, et on en a tous un peu ras-le-bol. Le second déterminant, c'est le mot « social ». Il fait écho à un tissu de relations entremêlées et confuses, aux enjeux aussi diffus qu'incertains. Les règles de l'ordre social nous entraînent dans des trames d'interaction plus souvent subies que choisies. Bien souvent, la vie sociale nous assigne. Tant qu'on ne se pose pas trop de questions, on supporte à peu près. Quand on franchit le Rubicon séparant la simplicité du sens commun de la réalité éclairée par l'esprit critique, ça devient plus compliqué. Pas grand-chose d'excitant à l'horizon, donc, lorsque surgit le vocable « travail social ». D'ailleurs, sa presse spécialisée peine à susciter de l'intérêt par-delà ses cercles d'auteurs, ses centres de formation voient l'effectif des postulants diminuer d'année en année, les velléités conceptuelles qui s'efforcent de faire du travail social un champ de pratique et de pensée autonome se voient rattrapées par un ensemble de disciplines essoufflées, je pense à la science administrative, à la psychologie, à la pédagogie, pour n'en citer que quelques-unes, qui s'efforcent de l'accessoiriser. Bref, le travail social, a priori, c'est pas la joie. Mais, à bien tendre l'oreille, le travail social représente une sacrée source d'enthousiasme. Pas dans les paroles de ses managers, ses directeurs, ses organisateurs et tous ses autres prescripteurs qui s'inquiètent et se lamentent. Les discours de ses cohortes encravatées qui enchaînent les réunions de bilan et les CODIR, les COPIL et les PROJAV tranchent avec les satisfactions rencontrées par les acteurs de terrain.
Bonjour, je me présente Sandra. J'ai 61 ans, je suis assistante de service social depuis bientôt 14 ans. J'ai fait mes études à l'école de Montpellier. J'ai été en reconversion professionnelle à ce moment-là. Ça a été un choix de retourner à l'école à 45 ans pour embrasser la carrière d'assistante de service social. J'exerce depuis 14 ans en milieu hospitalier dans un service d'addictologie où on reçoit des patients en sevrage et en post-cure. Ce service, du coup, permet aux personnes qui sont dans la demande de soins de venir conforter un projet de sevrage à tout produit et de réfléchir et de se confronter à l'abstinence. Nous recevons tout type de personnes âgées à partir de 18 ans jusqu'à plus de 80 ans, ce qui nous est arrivé. Parler d'un moment de satisfaction qui me conforte dans le choix de ce métier, comme beaucoup de mes collègues, je pense qu'on en a souvent de ces moments de satisfaction. Et c'est ce qui me donne en particulier l'envie tous les matins de me lever et d'aller sur mon lieu de travail qui est à plus de 35 km. Et malgré toutes les contraintes hiérarchiques, administratives que nous connaissons tous. S'il me faudrait choisir une situation en particulier, ce serait le jour où j'ai reçu...
Ma sœur Anne, notre vraie communion. Des boutons, ma soutane, un par un. Des boutons, ma soutane. Des chevilles au menton. Des boutons, ma soutane. Bien manger du flexion. Et faisons, ma sœur Anne, notre vraie communion. Et faisons, ma sœur Anne, notre vraie communion. Des boutons, ma soutane, un par un. Des boutons, ma soutane. Des chevilles au menton. Des boutons, ma soutane. Bien manger du flexion. Et faisons, ma sœur Anne, notre vraie communion. Et faisons, ma sœur Anne, notre vraie communion. Des boutons, ma soutane, un par un. Des boutons, ma soutane. Les chevilles, mon ton. Des boutons, ma soutane. Et nous j'ai... Ah, 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 ah.